Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique pour terminer Soft Power. On parle ce soir de l'édition de la transition pour le secteur du jeu vidéo, le E3 2019. Alors c'est le plus important événement de jeux vidéo au monde, l'Electronics Entertainment Exposition 2019, nom de code E3 parce qu'il y a 3 E. C'est tenu comme chaque année à Los Angeles et a fermé ses portes ce jeudi. Alors pour la première fois, l'E3 s'est fait sans Sony qui a décidé de boycotter le salon. Ce qui laissait théoriquement le champ libre à ses meilleurs ennemis, Microsoft ou Nintendo, mais aussi à de nouveaux entrants comme Google et dans une moindre mesure Netflix. Entre annonces et bouleversements plus structurels du secteur du jeu vidéo, tant au niveau des acteurs que des modèles économiques, retour sur cette E3 ce soir dans le club de la presse numérique de Soft Power avec Amel Guiton de Libération, Gilles Fontaine de Challenge et Emmanuel Paquette de L'Express, les trois chroniqueurs du début de cette émission qui sont restés avec nous. Alors sur le front des annonces de jeux, la face la plus grand public de l'E3. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Emmanuel Paquette ou Gilles Fontaine, de cette QV 2019 ? Gilles Fontaine.
Bon, je démarre, mais vraiment sous le contrôle d'Emmanuel Paquette, qui est le grand spécialiste mondial du jeu vidéo dans ce studio et au-delà. Effectivement, c'était un salon un peu particulier cette année, parce que d'abord, il y a eu beaucoup d'annonces. C'est un salon où il ne se passe pas toujours grand-chose, mais là, Microsoft a annoncé sa nouvelle console de jeu, le projet Scarlett. Sony n'était pas là, mais quand même tout le monde avait en tête que le constructeur japonais va sortir probablement également l'année prochaine. En général, ces deux-là se collent un petit peu au maillot sa PlayStation 5. Et puis Netflix aussi a fait ses annonces, vous l'avez mentionné, de nouveaux entrants sur ce marché, et notamment dans ce qu'on appelle le cloud gaming, c'est-à-dire non plus des jeux qu'on joue sur des CD ou sur des cartouches,
comme vous y allez. Oui, vous parlez du Moyen-Âge.
Vous n'avez pas jouer avec des cassettes.
Il y en a au musée Pompidou, dans les...
Et ben moi j'ai joué à des jeux vidéo avec des cassettes et c'était très amusant.
À l'époque, vous parliez avec vos petits amis sur Minitel. Voilà.
Donc redevenons sérieux, parce que le cloud gaming c'est très sérieux. C'est effectivement un jeu qui se joue, comme on dit, en streaming, c'est-à-dire directement sur les réseaux. On peut le jouer sur plein de terminaux différents, sur son ordinateur, sur le téléphone portable, sur une tablette, etc. Et c'est un marché qui, en 2019, devrait représenter pas loin de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est énorme, c'est pratiquement la moitié c'est des chiffres très sérieux, Emmanuel. C'est à peu près la moitié aujourd'hui, le streaming, le jeu.
Alors là, on a absolument rien compris. Passons à Emmanuel Paquette.
J'ai pas fini, la moitié du marché du jeu vidéo, c'est un marché qui ne se fait non plus sur des supports physiques, donc les fameuses cassettes, mais qui se joue totalement en réseau. Voilà.
Emmanuel Paquette, pour une explication sérieuse.
Non, mais disons que c'est vrai, on est en train de changer de modèle économique. Jusqu'à maintenant, les fabricants de consoles mettaient en place des consoles qui coûtaient très cher. Ça leur mettait du temps à rentabiliser, et du coup, ils se rentabilisaient avec la vente de jeux liés à ces consoles. Là, on bascule dans un autre système, donc où certains acteurs pensent qu'il n'y aura plus de consoles. On pourra directement se connecter via son téléviseur connecté, son iPad, et en ouvrant son navigateur, par exemple avec Google Stadia, on pourra directement jouer à un jeu en ligne. Donc du coup, plus de consoles a priori à acheter, et puis un système normalement par abonnement sur lequel on peut accéder à certains titres. Alors en réalité, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a eu pas mal de tentatives jusqu'à maintenant qui sont soldées plutôt par des échecs, parce que le modèle économique est très compliqué à mettre en place, contrairement à celui de Netflix qu'on voit aujourd'hui et qui fonctionne plutôt bien pour cet acteur-là. La répartition de la valeur entre le distributeur de ces plateformes, que ce soit Google ou les fabricants de consoles comme Microsoft d'un côté, et de l'autre côté les studios, on n'y est pas vraiment encore. Et on a vu quand même beaucoup d'acteurs mourir, donc Gaikai, OnLive, etc., qui ont été rachetés, notamment par PlayStation. Aujourd'hui, Sony est le premier à avoir lancé un service il y a à peu près 5 ans qui s'appelait PlayStation Now, qui compte aujourd'hui 700 000 abonnés selon Sony. Mais même là-dessus, on s'abonne donc pour jouer à un catalogue de jeux Sony et autres. Il y a à peu près 750 jeux disponibles dans 19 pays. Mais là encore, on peut le télécharger ou jouer en ligne, et la plupart des gens le téléchargent. Donc on n'est pas encore sur le même système que la vidéo à la demande. Et puis, puis Google qui a annoncé que dès 2020, il y aurait un système équivalent pour pouvoir jouer directement dans un navigateur sur Internet, vient de dire que simplement, il fallait s'abonner au service pour après acheter le jeu. Donc, on n'est pas du tout sur un modèle Netflix. On est sur des modèles un peu plus compliqués, avec des modèles économiques qui se cherchent. Et surtout, avec des problèmes de débit. C'est-à-dire, pour pouvoir jouer, il va falloir avoir des très, très bons débits. On est sur du 35 mégabits par seconde. C'est-à-dire, quand on voit aujourd'hui une connexion ADSL chez quelqu'un d'à peu près lambda, c'est entre 5 et 10 mégabits par seconde. Donc on est loin des 35 mégabits par seconde.
Amel Guiton.
On voit en tout cas qu'il y a quand même une... c'est quand même les grandes manœuvres, hein, manifestement. Et alors, il y a aussi manifestement une espèce de petit concours de montrage de muscles entre Microsoft et Google, puisque Google a dégainé le premier. Moi, de ce que je comprends, c'est qu'il y aura déjà une offre à partir de novembre 2019, en fait, puis une nouvelle avec un accès gratuit possible en 2020. Donc on serait sur une petite dizaine d'euros par mois. Mais il faudrait effectivement toujours payer ensuite pour avoir accès au jeu. Et donc Microsoft, dans la foulée, a annoncé le lancement de xCloud en octobre 2019, donc un mois avant. Donc on voit bien là qu'il y a une concurrence assez nette. Alors il y a effectivement Netflix qui arrive dans tout ça, mais moi j'ai l'impression pour le moment qu'on est beaucoup dans quelque chose d'assez symbolique, hein, puisqu'on parle effectivement de projets qui accompagnent des grosses sorties de séries, type la saison 3 de Stranger Things ou Dark Crystal, mais avec des projets qui semblent à budget assez limité pour le moment. Enfin, on ne voit pas arriver de méga productions jeux vidéo Netflix. Hein, on est plus dans une espèce de diversification des produits. Apparemment, il y en a qui ont carrément une longueur d'avance, puisque j'ai lu aussi qu'Elon Musk était présent sur place, qu'il a assisté à la conférence d'un éditeur, qui était présent à la conférence d'un éditeur qui s'appelle Bethesda, parce que lui, il voit y compris un marché en fait du jeu vidéo à l'intérieur des voitures autonomes. Donc là, on voit que il y a y compris ceux qui ont deux longueurs d'avance. Bon, je sais pas ce qu'il faut forcément en déduire, mais en tout cas, il y en a qui réfléchissent aussi non seulement à la dématérialisation, au passage au cloud, etc., même au fait de pouvoir jouer de n'importe où jusque dans sa voiture.
C'est l'enjeu finalement, c'est un peu l'enjeu de tous ces acteurs depuis même 20 ans. Alors, pas sur la voiture, mais déjà au moment où Microsoft s'est lancé dans cette industrie du jeu vidéo. D'ailleurs, c'est à peu près sa seule diversification propre réussie. C'est sa seule diversification dans le hardware, dans le matériel réussi. Le groupe gagne beaucoup d'argent aujourd'hui dans le jeu vidéo. À l'époque, Microsoft, son enjeu, c'était la guerre du salon, c'est-à-dire réussir à être le système d'exploitation de la maison, avec son fameux système d'exploitation Windows. Et Amael l'a mentionné, la voiture autonome, c'est le smartphone de demain. Donc tous ces acteurs, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple, se battent aujourd'hui. Finalement, le jeu vidéo, c'est un petit peu le produit d'appel, c'est-à-dire que on attire le consommateur avec le jeu vidéo, et derrière, on peut lui proposer plein de choses. Et puis surtout, on opère, on en discutait tout à l'heure avec Sybille Veil, on en revient toujours au même point, c'est-à-dire contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, ce qui attire effectivement beaucoup et de plus en plus de le jeu vidéo, c'est plus simplement le geek de 25 ans ou de 40 ans comme Emmanuel. C'est une population qui est de plus en plus féminine, de plus en plus âgée. On joue ensemble, on joue dans le salon. Et donc, c'est bien ça dont il s'agit. C'est contrôler aujourd'hui le tuyau qui amènera les contenus divers et les services de demain.
Autre nouvel acteur, et non des moindres, Google, avec l'annonce de son nouveau service Stadia, quelques jours à peine donc avant cette édition de l'Electronics Entertainment Exposition 2019, avec une accroche forte, l'avenir du jeu vidéo, on en a déjà parlé, n'est pas dans une console, Emmanuel Paquette.
Oui, parce qu'en fait, l'idée de tous ces acteurs, c'est qu'ils ont aujourd'hui des infrastructures déployées dans le monde entier. Donc Microsoft a sa plateforme qui s'appelle Azure, qui aujourd'hui permet à des entreprises, par exemple, d'avoir leur messagerie hébergée ou d'avoir leur bureautique hébergée. Donc il y a des data centers, enfin des centres de données de Microsoft implantés un peu partout sur la planète. Google, c'est à peu près la même chose, ils ont des data centers partout sur la planète. Amazon, Apple, c'est exactement la même chose, puisque pour les mises à jour des iPhones, des iPads, il faut avoir des centres de données qui puissent permettre de télécharger très vite les mises à jour de toutes ces plateformes. Donc ils sont là, ils ont des capacités, et donc ces capacités-là, ils peuvent le faire pour distribuer des films, pour distribuer de la musique. Ils se disent pourquoi pas aujourd'hui distribuer aussi du jeu vidéo. Donc là, le problème, c'est de savoir qu'est-ce que vont faire les studios. Est-ce qu'ils vont être désintermédiés, c'est-à-dire est-ce que c'est Google qui va prendre la main, Microsoft va prendre la main, et eux, en fait, vont rester un peu à la traîne, sachant qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils vendent quand même un jeu ce qu'on appelle triple A, c'est-à-dire les gros blockbusters des jeux vidéo, ça se vend 70€ sur une console PlayStation ou Xbox. Demain, si c'est dans un abonnement à 10€ par mois, ils vont perdre beaucoup d'argent. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de fenêtrage, une chronologie des médias qui est en train de se mettre en place dans le jeu vidéo, avec les premiers produits qui sortent en DVD, toujours, à un prix relativement élevé. Et quand ils sont beaucoup plus vieux, il y a un second marché, qui est celui de l'abonnement, dans lequel, dans des catalogues, on met des vieux jeux, en fait, hein, avec quelques petites nouveautés quand même pour attirer le chaland. Mais donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui Netflix, beaucoup de fonds de catalogue, quelques nouveautés, ça sera probablement la même chose sur ces catalogues de jeux en ligne.
Amaël Guitton.
Bah oui, la vraie question que je me pose, mais peut-être qu'Emmanuel a la réponse, c'est est-ce que Google à un moment donné va y compris se lancer dans une production autonome, parce qu'ils avaient quand même recruté une pointure pour leur studio à eux, qui est Jade Raymond, qui est une ancienne d'Ubisoft et d'Electronic Arts, et pour le moment on n'a pas le sentiment de voir venir grand chose ou qu'il y ait eu d'annonces particulières. Ils font plutôt des annonces effectivement sur un certain nombre de partenaires qui sont y compris des gros studios type Ubisoft précisément, mais on les voit pas forcément se positionner sur de la production en tant que telle. Et au-delà par ailleurs de la question du modèle économique qui va se mettre en place, peut aussi se poser une question sur un terrain très différent, mais qui est celle de l'impact environnemental de tout ça. C'est une question qui commence un peu à émerger, parce que c'est vrai qu'on demande plutôt aujourd'hui aux géants du net d'avoir un peu plus de frugalité. En l'occurrence, le cloud gaming, ça repose effectivement sur de très gros data centers et sur l'utilisation des capacités computationnelles. Ça paraît pas très frugal quand même, quoi.
Bah, ça dépend, parce que c'est un peu comme Amazon quand ils ont mis en place leur système. Ils avaient déjà tous leurs serveurs et ils ont vu qu'ils avaient des surcapacités, donc ils ont dit autant les louer à des sociétés. Donc c'était AWS, enfin, donc Amazon Web Services.
Géant aujourd'hui du cloud,
exactement.
Numéro 1 mondial.
Donc la question, c'est qu'une fois qu'on a déployé des serveurs et qu'ils sont utilisés en sous-capacité, on peut se dire utilisons la sous-capacité pour faire d'autres choses. Donc est-ce que c'est une frugalité? Non. Est-ce que c'est ne pas en rajouter, mais utiliser la pleine puissance de ce qui existe déjà? C'est probablement ce qu'ils essaient de faire, puisque les structures et les coûts, ils ont déjà encaissé, donc maintenant ils n'ont plus qu'à prendre les gains.
Gilles Fontaine.
On annonce quand même des jeux qui sont de plus en plus haute définition, donc de plus en plus gourmands aussi en ce qu'on appelle la bande passante sur les réseaux, c'est-à-dire que ça va prendre de plus en plus de place sur les réseaux de télécommunications. On parle de 120 images par seconde, je crois, sur l'offre Microsoft, par exemple. C'est-à-dire que pour les opérateurs télécoms, ça va devenir un vrai enjeu. Pour les gens qui...
Déjà, Netflix en était un considérable.
Voilà. Exactement, Netflix à certaines heures de la journée, c'est plus du tiers
aux États-Unis,
qui est occupé par Netflix. Donc les jeux vidéo, c'est encore plus fort que ça, encore plus gros. On parle de dizaines de gigas à l'heure pour certains jeux. C'est-à-dire que même sur un smartphone avec un usage illimité, l'opérateur va tirer la sonnette. Donc ça, ce sera un vrai enjeu pour les opérateurs télécoms. Et puis je voudrais mentionner juste, c'est peut-être un petit clin d'œil et puis un petit cri aussi. On l'a toujours d'ailleurs, un champion français dans ce domaine qui s'appelle Blade, qui a levé beaucoup beaucoup d'argent et qui a pensé effectivement à un ordinateur ultra puissant pour les gamers dématérialisés, c'est-à-dire que toute la puissance est dans le réseau. Ils ont une offre qui est un peu chère, hein, 35€ par mois pour avoir accès à ce service, mais on aurait pu imaginer que les opérateurs télécoms français par exemple s'associent avec cet acteur-là plutôt que de se jeter dans les bras d'un Google ou d'un Microsoft. Apparemment nos jeunes amis de Blade n'ont trouvé que le belge Proximus, qui est un opérateur, c'est bien, mais c'est quand même un petit marché. Et c'est vrai que on se plaint beaucoup toujours de ce poids écrasant des offres américaines, mais finalement on fait pas non plus grand chose pour s'en protéger et notamment pour soutenir nos champions ou futurs champions français.
Manuel.
Oui, non, c'est vrai. Ce que dit Gilles est exact. Après, c'est vrai que les investissements sont tellement massifs. Je reviens encore à l'infrastructure. C'est qu'il faut financer une infrastructure qui est coûteuse, avec ce que tu disais, de la bande passante qui est coûteuse aussi. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides. Et c'est vrai qu'un investisseur, s'il se lance dans cette course-là, parce que c'est une course à la taille, avoir le plus d'abonnés possible dans le plus de pays possible. Donc, ça veut dire investir énormément. Donc, c'est vrai qu'en termes de ressources, c'est aussi assez risqué pour un investisseur.
On n'a pas répondu à la question aussi, pourquoi Sony était absent ? pour terminer cette session du Club de la Presse numérique.
En tout cas, officiellement, de ce qu'ils disaient, c'était parce qu'ils expliquaient qu'ils n'étaient pas exactement prêts à faire des annonces sur la prochaine génération de consoles. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir d'autres éléments plus tactiques? Bon, en tout cas, c'est vrai que ça a un peu étonné tout le monde, puisque je crois que c'était la première fois depuis le début même de la conférence qu'ils n'y étaient pas. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont justifié.
Un des grands acteurs, donc absent à ce sujet. Ben merci infiniment à tous les trois d'avoir été dans cette émission. On en reste là pour ce soir. Pour aller plus loin sur ces sujets, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé Soft Power et vous abonner, je l'ai dit, au podcast de l'émission sur notre site France Culture, sur iTunes ou encore sur l'application podcast de votre smartphone Soft Power. Il est 20h28, pratiquement en direct sur France Culture. Dans quelques minutes, vous retrouverez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier, comme chaque dimanche soir. En attendant, merci à tous les trois. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.